Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Vis-tu une vie passionnante ?» Parce que je crois que c'est quelque chose qui occupe énormément l'esprit des gens, énormément. Et quand vous voulez savoir qu'est-ce qui est au top de ce qui préoccupe l'esprit des gens, ce n'est pas une recommandation, c'est juste une façon de vous dire. Si vous voulez le savoir, vous regardez les publicités. Les publicités sont toujours le top de ce qui se fait actuellement au niveau manipulation de la pensée des gens, de l'esprit dans lequel on veut les pousser à agir. D'accord ? Et donc, l'ensemble de ce qui est véhiculé pour vendre, parce que c'est l'argent qui mène le monde, hein, pour vendre, ce qui est véhiculé, c'est d'agir sur les désirs humains, sur ce qui peut le plus motiver les gens à dépenser leur argent et à faire ce qu'on les pousse à faire. Donc, ce qui se passe actuellement, dans le passé, il y a peut-être eu d'autres mentalités qui ont dominé. À un moment dans notre pays, patrie, travail, famille. Vous voyez, c'était les slogans. Vous pouvez noter au fil des sociétés ce qui était prédominant. Ben maintenant, on pourrait dire, voilà, passion, consommation, faire ceci, cela, ce que vous avez envie. Voilà. Donc, beaucoup de choses sont dans ce sens. Mais notre réflexion, c'est de dire, la vie chrétienne ne doit jamais être un standard en dessous de ce que le monde propose. D'accord ? Ça doit être ce qui se fait de mieux, normalement. Puisque pour nous, Dieu, on a entendu, il est incomparable, son amour est incomparable. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux, de plus grandiose qui soit. Alors comment se fait-il que des fois, la vie chrétienne est perçue par les gens comme étant de peu d'intérêt ? Ben c'est parce qu'il y a un diable, il essaye toujours de tromper les gens. Il leur dit sans cesse que le ciel, c'est un endroit d'ennui. Chez les chrétiens, c'est terne, il n'y a rien qui se passe, c'est morne. Par contre, en enfer, c'est là qu'il se passe des choses formidables. Et pourquoi ? Bon, maintenant, c'est un peu passé de mode, mais à un moment, c'est une soirée d'enfer. Donc, beaucoup de choses faisaient référence à l'enfer par rapport à des choses qui peuvent passionner les gens, justement, passionner. Donc, ma réflexion dans ce sens a été d'étudier ensemble ce qui se passe dans la vie des gens, y compris dans notre vie, pour transformer ce qui est au fond de chaque être humain, de choses que nous aimerions, nous désirons et qui se transforment en passion, de voir qu'est-ce qui se passe en nous à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe dans les gens. Premièrement, chaque fois que nous allons dire quelque chose, nous allons toujours mettre Dieu tout en haut, tout au-dessus. Ce qui se fait de plus beau, c'est sa création. Donc, n'importe quoi que l'être humain puisse exprimer ou puisse expérimenter, c'est toujours Dieu qui l'a créé. Il nous est dit que, dans l'épître de Jacques, « Ne vous y trompez pas », au verset 16, chapitre 1, verset 16, « Ne vous y trompez pas ». Je vous ai dit tout à l'heure, le menteur essaye de vous vendre des choses qui ne sont pas vraies. « Toute grâce excellente ». Excellent. L'excellence, ça veut dire aller toujours vers quelque chose qui est mieux. Toujours plus. L'excellence, c'est pas une position. C'est pas maintenant je suis tout en haut, je suis excellent. Non. L'excellence, ça veut dire que dans ma vie, je cherche toujours à m'améliorer, cherche à transformer les choses, cherche à les rendre meilleures, vivre des choses plus grandes, plus fortes. Grâce, ça veut dire une faveur, un don, quelque chose qui a été reçu. Donc toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Tout ce qui est bon vient d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu a toujours été comme ça, et il le sera toujours. Toutes les bonnes choses viennent de lui. Et même les désirs sont une création de Dieu. Les désirs qui sont en nous sont une création de Dieu. Ça fait partie de notre nature humaine de pouvoir désirer quelque chose. Dieu lui-même, dans sa parole, se compare des fois à un homme qui a des désirs. Et il y a une promesse que vous aimez sans doute beaucoup aussi, comme moi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc ça veut dire que si tu es tout mauvais, si dans tout ce qui est dans ton cœur c'est mauvais, Dieu ne te donnerait jamais ça. Même si tu fais de lui tes délices, ça veut dire qu'il y a des désirs que Dieu a permis qu'ils soient en nous, qui sont bons. Seulement, les désirs, ils peuvent aussi se transformer parce qu'on a une âme humaine qui peut être déchue et les désirs peuvent se transformer en quelque chose qu'on appelle la passion. Qui aurait pensé que la passion puisse être quelque chose de négatif? Dans la plupart des gens, aujourd'hui, quand on parle de la passion, on trouve que c'est quelque chose de positif. N'est-ce pas vrai? Si je dis, tiens, je te donne ce livre, c'est vraiment un roman passionnant. Tu vas faire quoi avec ce livre? Si tu aimes lire, si tu commences à le lire, alors beaucoup de gens disent, je l'ai dévoré, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai continué, je devais travailler le lendemain, mais jusque tard dans la nuit, j'ai lu et j'ai vraiment dévoré ce livre. C'est un roman passionnant. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'intérêt que j'avais pour le livre, le désir que j'avais de le lire, le contenu du livre lui-même, tout ça, au bout d'un moment, s'est transformé en moi pour devenir quelque chose de passionnant. Et ce qui est passionnant, c'est quelque chose qui me dévore, que je ne contrôle plus. Alors, quand des désirs naturels se transforment en passion, on vit des choses très fortes. C'est comme, on pourrait dire, une drogue. D'abord, tu vas dire, mais prendre cette substance, ça va produire en moi peut-être un bien-être. Je suis cool, je me sens bien sur le moment. Mais après, ces choses vont grandir en nous pour devenir quelque chose qui me contrôle, qui me domine, qui va peut-être me faire vivre des sommets au niveau physique, quand la chimie du cerveau et tout ça, ça s'y met, sauf que ça détruit le cerveau. Et ça, c'est toujours l'idée du diable. Pour mieux détruire l'être humain, il faut qu'il l'appâte avec des choses où il va suivre. Si à l'avance, c'est pas bon, et que tout le monde le sait, et que c'est désagréable, personne ne va se faire attraper. Donc, les désirs et tout ce qui est en nous se transforment en passion pour, au final, nous détruire. Et il faut qu'on en soit conscient. Donc, moi aussi, j'avais tendance à dire, nous devons être passionnés pour Jésus ou des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte que, à la racine du mot passion, je ne peux pas l'utiliser de la même façon. Ce n'est pas tout simplement approprié. C'est pas que ça soit faux, dans le sens que tout le monde l'utilise, on peut l'utiliser, mais nous, on veut aller à quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus juste. C'est comme des fois, on dit, dans le stade du foot, les gens applaudissent l'équipe, alors nous aussi, applaudissons le Seigneur très fort. Ça semble partir d'une bonne intention, pour qu'il y ait de l'enthousiasme pour le Seigneur. Mais en réalité, on s'appuie sur quelque chose qui se passe dans le monde et qui n'est inapproprié en ce qui concerne Dieu. Dieu mérite l'adoration et rien d'autre au monde ne mérite l'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Aucune autre adoration. Donc pas j'adore le chocolat, j'adore le sport, j'adore le truc, le machin. N'adorez rien d'autre. Rien d'autre. Dans le même sens, ce que le monde peut faire pour applaudir ses idoles, le nom est bien choisi, vous ne prenez pas ça comme support et soutien pour faire une meilleure louange à Dieu. Elle est de nature différente. Même si au final, vous pouvez bouger, sauter, danser, applaudir, etc., vous pouvez le faire. Mais vous comprenez ce que je veux dire? À l'intérieur, la démarche sera différente. Vous allez le faire parce que votre corps a envie d'exprimer votre joie, mais vous n'allez pas le faire pour faire comme le monde et mieux qu'eux. Vous allez le faire différemment. Roman passionnant. Et puis, on pourrait prendre beaucoup de choses. Alors, chaque catégorie de personnes a ses passions où le diable les attrape spécialement. D'accord? Donc, je n'ai pas réfléchi pendant des heures sur les passions de chacun. Simplement, l'amour perverti devient la passion. Et on trouve que c'est formidable. On vient de passer la Saint-Valentin, hein, tout est rouge, les cœurs de partout. Donc tout était passionnant. Mais l'amour qui se transforme en passion conduit des fois au crime passionnel. Quand même intéressant de savoir que cette notion existe, le crime passionnel, tué par amour. Comment est-ce possible? C'est impossible. On ne peut pas tuer par amour. On ne peut tuer que parce que quelque chose d'incontrôlable est venu sur un individu et l'a rendu incapable de se dominer et il a confondu l'amour avec autre chose. La jalousie, par exemple. Et vous pouvez prendre chaque chose de l'activité humaine pour voir le même phénomène se reproduire. Le travail, vous pouvez être un passionné de votre travail. Au bout d'un moment, vous pouvez ruiner votre santé au travail, vous pouvez détruire votre famille au travail, vous pouvez faire beaucoup de choses, d'une chose qui est bonne au départ. C'est bon de travailler. Et Dieu a béni le travail. Il a dit qu'il faut faire quelque chose de nos mains, qu'il faut utiliser notre intelligence, etc. Mais il y a des gens qui sont totalement absorbés par leur activité professionnelle au point que, ensuite, ça conduit à la destruction. Vous pouvez aimer vous distraire, vous pouvez aimer le sport, par exemple, mais je suis toujours perplexe de voir qu'il y a des gens qui sont capables de suivre leur équipe chaque week-end à l'autre bout de la France. Et ce n'est pas des gens qui sont toujours fortunés, mais ils prennent de leur argent difficilement gagné pour aller à l'autre bout du pays, pour soutenir leur équipe. Et je pense que c'est au détriment, des fois, de leur santé, parce que moi, je trouve que c'est fatigant de faire 1000 km un et retour. Et certainement, leur famille, pendant ce temps, les voit pas. Et peut-être il y a des besoins de la famille qui étaient plus importants que d'aller à cette manifestation sportive. Donc, le sport, ça peut être bien pour pratiquer, ça peut être bien pour suivre, mais en même temps, on voit, dans chaque activité humaine, vous pouvez retrouver ce même cas de figure. Quelque chose se transforme peu à peu et ça vous domine, vous ne le contrôlez plus. Donc je ne vais pas continuer dans tous les exemples, mais on pourrait en trouver beaucoup. Mettez-vous à la place et voyez quelle est l'activité que j'aime faire, que peut-être Dieu peut approuver. Même des jeux vidéo peuvent être approuvés de Dieu. En tout cas, c'est un pasteur m'a dit une fois, m'a dit, mais si le Seigneur te voit jouer, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, amuse-toi bien. Donc, un jeu peut être distrayant, amusant et acceptable. S'il n'y a plus que ça, si ça domine ma vie, je suis de nouveau tombé dans quelque chose qui me contrôle. Donc, comme on a déjà fait une petite allusion, donc parler de la passion, mon deuxième point, c'est la passion du Christ. Il y a un film qui s'appelle comme ça, La Passion du Christ. D'abord, la passion du Christ, nous sommes actuellement dans cette période où beaucoup de gens se rappellent que nous nous dirigeons vers Pâques. Côté catholique, on est dans la période du carême, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Vivre plus sobrement au niveau de la nourriture, se préparer à ce temps qui a précédé le sacrifice de Jésus. Chez les protestants, on l'appelle justement la passion. C'est la passion. On se prépare pour un temps jusqu'à la Pâque. Et pour nous, alors, la passion du Christ, c'est que tout d'abord, il a vu notre souffrance. Et la Bible dit même qu'avant la fondation du monde, il avait déjà tout prévu. Mais c'est important que ne laissez jamais le diable vous tromper en disant « Personne ne peut te comprendre ». Personne ne sait ce que tu traverses. Dans le proverbe 107, non pas proverbe psaume, bien sûr, il n'y a pas de proverbe 107, au verset 11 déjà, il nous est dit, parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu. Chacun de nous, à un moment ou un autre, n'a pas obéi aux paroles de Dieu. Il y a des choses qu'on a négligées. Pas forcément désobéi de façon radicale, mais simplement, on peut aussi pécher par omission ou par négligence, hein, pas seulement par volonté délibérée de faire le contraire de ce que Dieu dit. Mais parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Mépriser, ça veut dire ne pas tenir en haute estime. D'accord ? Mépriser, c'est pas forcément une attitude agressive de rejet. C'est simplement, ouais, c'est bien gentil ton petit conseil là, mais moi je trouve que autre chose, ça vaut aussi. Et donc, on peut se retrouver dans toutes sortes de situations. Et il nous est dit, il humilia leur cœur par la souffrance. Il n'est pas du tout dit, et Dieu les fit souffrir parce qu'il avait un plan par là et voulait les enseigner. D'accord ? C'est important pour nous que nous soyons bien conscients que Dieu n'a jamais eu un plan pour enseigner l'être humain par la souffrance. Jamais. Ça n'existe tout simplement pas. Ici, dans la méditation de la santé que je lis régulièrement, il nous est dit que c'est l'auteur, Kenneth Hagin, dit qu'il a prié pour beaucoup de gens. Et donc souvent, quand il priait pour la guérison, il y a des gens qui lui disaient « Il se peut que Dieu essaye de m'enseigner quelque chose. » Lorsque je leur demande « Vous êtes malade depuis combien de temps ?» Parfois, ils répondent « Depuis 20 ans. » Je demande ensuite « Avez-vous appris quelque chose ?» Normalement, ils répondent « Eh bien non. » Je leur réponds « Si Dieu essaye de vous enseigner quelque chose depuis 20 ans, ou il est nul comme professeur, ou vous êtes un étudiant incompétent. » Une telle mentalité serait comique si ce n'était pas tragique. Parce que si Dieu veut vraiment vous enseigner par la souffrance, alors il faudrait qu'on prie instantanément. Dire, Seigneur, nous voulons plus de souffrance pour encore mieux comprendre tout ce que tu veux faire. Et comme quelqu'un dit aussi avec un peu d'humour, il a dit, et on ne devrait pas aller chez les médecins pour se faire guérir, puisque c'est au travers de la souffrance et la maladie qu'on apprend plein de choses. Et il avait rajouté, il a dit, et on devrait brûler tous les hôpitaux et chasser les médecins du pays. C'est juste pour attirer l'attention sur la stupidité d'une telle déclaration. En réalité, les médecins et les hôpitaux travaillent dans le même sens, pour la santé des gens. Alors pourquoi voudrions-nous nous obstiner à ne pas recevoir l'aide de Dieu pour nous sortir de cette situation? Donc non seulement il nous y a pas mis, et en plus, il essaye de nous en sortir. Donc collaborons avec lui. Et nous avons vu ici que certains s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, qu'on avait méprisé le conseil de Dieu, ou étaient dans l'ignorance. Leur cœur est humilié par la souffrance. Le cœur de tout le monde n'est pas humilié par la souffrance. Certains se mettent dans une situation de révolte. Dans le livre de Job, il a dit, la souffrance te dispose au mal. Vous voyez, la souffrance, une même souffrance peut avoir une personne un effet bénéfique dans le sens qu'il va bien réagir, s'humilier devant Dieu, comprendre certaines choses, y changer, et une autre personne va se rebeller, s'enfoncer encore plus, et n'apprendre rien du tout, et devenir de plus en plus anti-Dieu et aigri. Ils succombèrent, personne ne les secourut. Il n'y a pas d'aide humaine, personne ne les secourut. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses, il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les portes, habituellement, à l'époque, n'étaient pas d'airain. Ça voulait dire vraiment, ça c'est les portes infranchissables. Les insensés par leur conduite coupable, nous sommes tous insensés lorsque nous agissons comme s'il n'y avait pas de Dieu. Parce que c'est ça la définition de l'insensé. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, c'est dans le psaume 14. Donc, de temps en temps, on est malade, de temps en temps, on souffre, de temps en temps, il nous arrive quelque chose parce qu'on a agi comme un insensé. Et par leurs iniquités, ils s'étaient rendus malheureux. Vous savez, la Bible dit que seulement si nous reconnaissons nos fautes, nous pouvons être délivrés. Autrement, tant qu'on essaie de les cacher, on n'obtient pas le pardon. C'est pas que Dieu veut pas pardonner, c'est nous qui sommes incapables de le recevoir. Leur âme avait en horreur toute nourriture, ils touchaient aux portes de la mort. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Et, le mot important pour nous maintenant, il envoya sa parole et les guérit. Sa parole fait déjà référence à la parole vivante, Jésus. Il l'a envoyé. Vous voyez, c'est ça dans la Bible. Quand on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est pas juste une belle phrase. Ça veut dire que de toute éternité, il est le même. Il a envoyé sa parole et écrit dans le psaume des centaines d'années avant que Jésus vienne effectivement s'incarner. Mais parce que le principe de Dieu est le même. Il avait toujours dans la pensée, j'envoie mon fils, la parole vivante, pour sauver, guérir, délivrer l'humanité. Il les fit échapper à la fosse et de nouveau qu'il loue l'Éternel. Donc il a vu notre souffrance et il est venu partager notre souffrance. Deuxième point. Vous me suivez dans la deuxième partie passion du Christ? Un, il a vu notre souffrance. Deux, il a partagé. Combien de fois lisons-nous dans les évangiles, et je vous encourage à lire tous les jours au moins un chapitre de l'évangile, parce que ça vous met en contact avec Jésus tel qu'il a vécu sur terre, comment il s'est comporté, et vous entretenez votre communion avec lui, et vous le connaissez de mieux en mieux comme étant lui-même le bon berger. Combien de fois il est écrit, il était ému de compassion. Ému de compassion. Il a vu chaque fois la souffrance. Ému de compassion. Compassion, souffrir avec. Il a vu la souffrance et maintenant il est venu. Et quand il voyait quelqu'un souffrir, il souffrait avec. Il était ému. Ça le touchait. Il n'était pas indifférent. Il n'était pas éloigné, etc. Dieu n'est pas loin du que fait Dieu, etc. Il est ému de compassion. Il est proche. Et il a fait autre chose aussi. Dans Matthieu 9, les versets 34, 35, 36, par là, il nous a dit qu'il était ému de compassion aussi pour les foules qui n'avaient pas de berger. Pas seulement pour leur détresse physique, matérielle, etc., mais même parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les conduise. Donc, il a connu cette compassion. Donc, c'est bien d'être ému, mais lui, il a fait quelque chose de plus que nous ne pouvons pas faire. Il a porté les souffrances. Il a souffert. Même dernièrement encore, j'ai eu l'occasion d'être dans des offices catholiques, œcuméniques. Une autre fois, c'était dans une célébration d'obsèques protestantes. Chaque fois, et ça c'est quand même quelque chose que je trouve important, il y a de nouveau cette déclaration du symbole des apôtres. Où on a, on peut dire, tout le catéchisme qui est rappelé à toutes les personnes présentes. Comment Jésus s'est incarné et il a souffert sur Ponce Pilate. Il a souffert sous Ponce Pilate. C'est une phrase qui est au cœur de ce symbole des apôtres, de l'ensemble de la déclaration. Tiens, je vais vous le lire. Ça nous fera toujours du bien. De se rappeler quelle est la base de la foi d'une grande partie du monde chrétien, quelles que soient après les choses, on est d'accord ou pas d'accord. Mais il est dit, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est le Seigneur et qui donne la vie. Du Père, il tient son origine. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, une et sainte, à sa catholicité, ça veut dire universalité, ça veut dire partout, en réalité. Son apostolicité, ça veut dire ça vient des apôtres, le fondement des apôtres. Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Donc voilà en gros le credo, et au cœur de ce credo qui devrait réunir et rassembler tous les chrétiens croyants, quelles que soient les différences qu'on peut avoir, etc. Maintenant, il nous est dit, il est venu, il a souffert, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a pris nos souffrances. Et ça c'est l'étape, je veux dire, ultime que nous devons comprendre. Parce que trop souvent, les gens peuvent s'arrêter aux étapes 1, 2. Je comprends ce que tu vis, même ça me touche. Mais il y a une chose que seul Jésus pouvait faire. Et ça, c'est dans Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, nous avons la description, là encore, prophétique, longtemps avant que ça ait eu lieu, de ce que Jésus allait faire. Il nous est dit que c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance, verset 3. Un peu plus loin, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout à l'heure, je disais qu'il était ému de compassion pour ceux qui n'ont pas de berger. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc il a fait tout cela pour que nous puissions être affranchis. Vous savez, dans l'Évangile selon Jean, il est dit « Celui que le Fils affranchit sera réellement libre ». Et ceux qui écoutaient à ce moment-là, ils pensaient être libres, mais ils ne l'étaient pas. Et la plupart des gens, c'est comme ça. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont libres. Je suis libre, je peux faire ce que je veux. Non, tu n'es pas libre. La plupart du temps, ces gens sont dominés par, il nous est dit, les passions de toute espèce. Et quand je parlais du film « La Passion du Christ », ce n'est pas un beau film. C'est un film violent, extrêmement violent, mais c'est un film qui retrace de manière assez précise ce qui a été la réalité de la souffrance de Jésus. D'accord? Donc je ne peux pas dire regardez-le tout le temps, parce que c'est un film qui est dur, qu'il faut comprendre, mais ça vaut la peine d'avoir compris au moins une fois dans sa vie ce que Jésus a souffert pour nous. Et maintenant on en passe à ma troisième et dernière partie. Avec cette réalité de la souffrance de Jésus, et parce qu'il a souffert pour nous délivrer, nous pouvons maintenant nous situer. Où est-ce que nous en sommes? J'ai dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. Et dans Matthieu 6, il y a une parole de Jésus que j'aimerais vous donner pour ce matin. Au verset 21, Jésus dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous avons toujours besoin de localiser notre cœur. Donc dans le naturel, on sait où il est, environ, où il bat. Mais notre cœur, c'est notre être intérieur. Où est notre intérêt le plus vif? Quelles sont ces choses que nous désirons le plus? Quelles sont les choses auxquelles nous pensons en premier le matin, que nous pensons en dernier le soir, quand on se réveille au milieu de la nuit? Par exemple, si vous pensez à des soucis, des inquiétudes, etc., c'est des choses qui vous poursuivent constamment. C'est-à-dire vous êtes assiégé par ça. Ça peut être d'autres choses, des choses que vous désirez vivement. Et là, dans ce contexte de Matthieu 6, Jésus nous dit de choisir qui on veut servir. On ne peut pas servir deux dieux à la fois. Pas mammon et Dieu en même temps. Il faut que vous choisissiez. Alors, choisir où est notre cœur, chacun doit voir comment il va agir à ce sujet. Mais Galates, chapitre 5, nous dit une certaine chose. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On a besoin de parler de cette liberté. Nous ne sommes pas et nous ne devons pas être dans un esclavage religieux, ni dominés par toutes sortes de raisonnements, mais nous devons réaliser quelle est la liberté que nous avons en Christ. Galates 5, 13, frères, sœurs aussi, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ne faites pas un prétexte, dites pas je suis libre donc je peux faire n'importe quoi, mais comprenez qu'il y a des choses qui veulent nous dominer. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Opposés entre eux. Encore une fois, c'était Dieu ou Mammon, Christ ou Bélial. Ici, c'est l'esprit ou la chair. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Si vous essayez de faire les deux en même temps, c'est comme avoir un pied dans la barque et un pied sur le bord de rivage. Si la barque s'écarte de plus en plus, faites de grands écarts, au bout d'un moment, vous n'êtes plus nulle part. Donc, à un moment donné, il faut choisir où on va aller. Ils sont opposés entre eux. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et après, vous voyez toutes les œuvres de la chair qui sont décrites. Débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Comme ça, si on en a oublié dans la liste, les choses semblables, celles qui agissent en nous d'une façon ou d'une autre ou de plein de choses, pas toutes les choses. Certaines choses peuvent être acceptables, mais transformées, elles deviennent quelque chose des œuvres de la chair qui sont mauvaises. On peut se battre pour une opinion, par exemple. Mais si vouloir avoir raison à tout prix se transforme en querelle, alors ça devient une œuvre de la chair. qui détruit la relation et qui ne produit rien de bon. Donc, quand vous voyez quelque chose qui se transforme en passion en vous, voyez d'où est l'origine de la souffrance. Pourquoi je me bats pour ça? Pourquoi je me donne tant de mal? Qu'est-ce que ça m'apporte? On a vu que nous sommes libres, mais où est ton cœur? Dans 1 Timothée 4, j'aimerais vous donner aussi maintenant une direction. On va le lire dans la parole vivante. Une direction par rapport à l'exhortation que Paul a donnée à Timothée. Et il y a 2000 ans à peu près de cela, quand il a écrit ces choses, il parlait des derniers temps. Donc nous sommes toujours encore dans les derniers temps. Et maintenant, nous sommes dans les derniers jours des derniers temps. Et donc, c'est un passage pour maintenant. Et il nous encourage à faire un certain nombre de choses. Et je lis à partir du verset 7 au milieu. « Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à la foi. » L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. Je vous parlais de la publicité tout à l'heure. Vous savez que maintenant, pour beaucoup, quand vous avez des publicités pour des choses à manger, alors il est écrit « Pour votre santé, bougez plus ». D'accord ? Donc, on vous dit que bouger plus, ça c'est vraiment un signe de santé. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, peu à peu, dans l'esprit des gens, le fait de faire de l'exercice est une bonne chose. Et ici, la Bible nous dit que ça a son utilité, certes, mais elle est limitée. Il faut toujours connaître la valeur des choses réelles. Alors, qu'est-ce qui est encore plus important que de bouger plus? C'est s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. Vous avez entendu? S'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et pour celle qui est future. Ça, c'est aussi un des problèmes de l'être humain. Soit on investit tout pour ici-bas, ou il y a des gens qui font que tout pour l'au-delà. Mais ici, la Bible, une fois de plus, elle est équilibrée entre les deux. Vie présente et vie future. C'est là une parole certaine et entièrement digne de foi qui mérite d'être acceptée sans réserve par tous les hommes. Sans réserve. Tout à l'heure, j'ai dit, on peut mépriser les conseils du Tout-Puissant. Et ici, on peut accepter la parole, oui. Oui, mais, avec réserve. Oui, d'accord, mais peut-être pas utile à tout. Peut-être pas utile dans toutes circonstances. Quand même pas, vous exagérez, hein. Ben si, t'es utile à tout et en toutes circonstances. En effet, si nous nous donnons tant de mal, si nous livrons un si rude combat, il y en a qui ont un rude combat des fois? Ou tout le temps? Non, je parle de vraiment un rude combat, hein. Si nous ne nous laissons rebuter ni par la peine, ni par les outrages ou les souffrances, c'est parce que nous avons mis notre espérance et notre entière confiance dans le Dieu vivant. Il est le sauveur et le bienfaiteur de tous les hommes, avant tout de ceux qui se confient en lui. Alors écoutez bien, c'est le message qu'il te faut prêcher. Dites-le à votre voisin, c'est le message qu'il te faut prêcher. Voilà comment tu dois exhorter, encourager, enseigner. Que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Dites-le à votre voisin, que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. Par tes paroles aussi. Je pourrais de nouveau faire tout un message sur les paroles. Il y a des paroles qui ne doivent plus se dire dans le peuple de Dieu. Hein? Ne vous laissez pas aller. Utilisez votre bouche qu'elle soit sanctifiée et qu'elle communique une bénédiction. Ta conduite, on n'est peut-être pas toujours parfait, mais travaille-y. Efforce-toi, il nous est dit. Il n'est pas dit que ce sera facile. Il dit efforce-toi. Ton amour, ta foi, ta fidélité, ta pureté. En attendant ma venue, là on peut le transposer, Jésus revient bientôt. En attendant ma venue, Voilà ce que tu dois faire encore dans le peu qui est de temps qu'il faut attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Consacre-toi à la lecture, personnelle et publique, des Écritures, à la prédication, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne laisse pas en friche le don spirituel que tu possèdes et qui t'a été donné en vertu d'indications prophétiques lorsque des responsables t'ont imposé les mains. Médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre toute ton attention et ton énergie. Ça ressemble à ce que les gens font quand ils sont dominés par la passion. Toute leur attention et toute leur énergie est consacrée à une chose particulière. Mais ici, il nous dit, fais-le pour la parole de Dieu. Toute ton attention et toute ton énergie. Ah bon ? À ce point ? C'est pas un peu fanatique, ça ? Ben non. Consacre-leur toute ton attention, toute ton énergie, afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. J'ai beaucoup aimé ce passage de paroles vivantes. Et on a besoin de s'encourager. Dans la version classique que nous avons l'habitude, c'est « donne-toi tout entier ». À elle. Donne-toi tout entier à ces choses. Je n'ai rien d'autre à ajouter, sinon en conclusion que nous soyons conscients que Dieu désire notre cœur plus que sous toute autre chose et qu'on puisse ensemble prendre ces bonnes décisions et s'encourager parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des personnes qui avons entendu de Dieu et nous savons certaines réalités spirituelles, même si nous sommes ici-bas. Nous sommes en réalité ressuscités avec Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, et ça change toute notre perspective de vie. Et en conclusion, je donne le verset de Colossiens 3. Il nous est dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et le verset 4, c'est celui de toute notre attente. Quand Christ, votre vie, paraîtra. C'est ce qui devrait être quelque chose qui occupe nos pensées actuellement et de plus en plus. Christ, votre vie, paraîtra. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et la perspective que Christ paraisse change tous nos projets d'avenir. Parce que défendons plan de retraite, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais vivre avec la vie présente et la vie future d'une façon équilibrée, de se dire d'un instant à l'autre, ma vie peut changer. Soit que je tomberai de mort, ma vie s'arrête, si j'ai rien préparé pour l'éternité, ben il restera pas grand chose, hein, c'est clair. Ou alors que Christ revienne, ou alors qu'il y ait un autre événement, et que je vive dans cet équilibre et dans cette perspective. Et je m'attache aux choses d'en haut, parce qu'elles sont, maintenant je ne peux plus utiliser le mot passionnante, elles sont formidables, enthousiasmantes, tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui devrait nous attirer à lui. Laissez-vous renouveler dans votre intelligence pour voir ces choses célestes. Ce sont des bonnes choses, ce sont les choses qui permettent que notre vie soit vraiment agréable aux yeux de Dieu, mais aussi agréable pour nous. Amen. Prions un instant. Nous prions, Seigneur, et par le Saint-Esprit, je demande que chacun d'entre nous reçoive encore cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance pour qu'on comprenne mieux quelles sont les choses que tu as accomplies pour nous et aussi celles que tu as préparées pour que nous puissions les vivre aujourd'hui. Merci de nous faire jouir de certaines choses aujourd'hui pour tes bienfaits, pour la santé que nous avons et pour ceux qui en ont besoin, qui sont touchés dans leur corps, qu'il y ait plus de santé divine qui se manifeste. Merci pour l'onction du Saint-Esprit, pour guérir là où c'est nécessaire, pour que les corps soient dans l'harmonie que tu veux. Merci parce que tu pourvois à nos besoins et nous pouvons le dire encore et encore, que ce soit pour du travail, des besoins financiers, des besoins matériels. Nous voulons, Seigneur, merci. Vraiment merci parce que nous pouvons mettre notre confiance en toi et nous voulons aussi te remercier pour notre protection parce que Nous avons cette conscience que nous vivons dans un monde où il y a une guerre spirituelle qui est en train de se mener, où il y a des dangers de toutes sortes, mais nous nous confions là encore dans ta parole, dans le nom de Jésus, et nous proclamons le sang précieux de Jésus sur chacun d'entre nous. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.